cours d'économie.
À la une, la clôture du forum économique de la province orientale. Les différentes potentialités et les besoins de la province ont été présentés aux bailleurs de fonds. Ces derniers s'engagent à soutenir certains projets. Les tenanciers de chambres froides se disent prêts à baisser les prix de vivres frais, à condition que le nombre des taxes soit également revu à la baisse. Ils l'ont dit à l'issue d'une rencontre aujourd'hui avec le ministre provincial de l'économie, qui lui demande à la DGI de revoir le coût de la taxe sur la valeur ajoutée. Et puis la RDC ne court plus le risque d'être exclue du processus ITIE. Le coordonnateur national de l'ITIE RDC rassure, le rapport 2011 sur les mines et les hydrocarbures pourra être publié avant la date butoir. Bonsoir à tous. La première table ronde des bailleurs de fonds de la province orientale a pris fin il y a quelques heures à Kisangani. Ces assises ont été une occasion de faire découvrir aux participants les différentes potentialités et les besoins de la province pour son développement et décollage économique. Au regard de ces atouts, les bailleurs de fonds se sont engagés à soutenir certains projets contenus dans le programme d'action du gouvernement provincial. C'est ce qu'a justifié également les signatures des contrats entre certains investisseurs et opérateurs économiques. Plusieurs recommandations ont été également formulées par ces mêmes participants. Armand Kasumbu Mabaya, ministre provincial du Plan, revient ici sur certains points essentiels. Il est au micro d'Aliana Alipanagama.
Poursuivre les efforts entrepris par le gouvernement provincial pour créer les conditions favorables de développement des investissements publics et privés dans la province. Mettre en place une structure compétente de pilotage pour la transformation économique. Poursuivre la mise en place des institutions provinciales compétentes et d'une gestion des finances publiques rigoureuse et transparente. Établir rapidement et progressivement des partenariats publics-privés afin de garantir la réhabilitation et la construction des infrastructures indispensables pour assurer le développement économique de la province. Définir clairement la réglementation dans le cadre du partenariat public-privé. Inventorier les plantations abandonnées et amorcer le processus de leur réappropriation par la province. Faire des études de faisabilité des projets prioritaires pour orienter les investissements des bailleurs de fonds. Et enfin, travailler spécifiquement sur les poches de fragilité.
Et Paul Matendo nous parle en quelques mots de l'économie de la province orientale.
Anciennement au Congo et au Zaïre, la province orientale, c'est principalement la ville de Kisangani et quatre districts. Kisangani, chef-lieu de la province, est considérée comme la troisième ville du pays, après Kinshasa et Lubumbashi ou Mbujimayi selon les classements. De manière générale, la province orientale a été le théâtre des différents affrontements depuis 1959, notamment de par son positionnement, ses ressources et sa proximité avec des pays agresseurs voisins. À noter qu'à l'époque où les conditions économiques étaient favorable, cette province constituait l'un des greniers du pays. Mais la province orientale dispose toujours d'atouts propices à son redéveloppement. La diversité éco-climatique de la province orientale permet la pratique d'une gamme variée des cultures industrielles et vivrières, ainsi que l'élevage de gros et petits bétail, ce qui confère à cette province une vocation agricole, pastorale et forestière. La production agricole actuelle est essentiellement assurée par les paysans selon un mode d'exploitation traditionnelle. L'exploitation industrielle, principalement basée sur les produits agricoles destinés à l'exportation, a connu au cours de ces deux dernières décennies une régression notable suite notamment à l'abandon des plantations de caféiers, Evia, cacaoyers et palmiers à huile dans le contexte de la zaryanisation. Dans le domaine de la pêche, la province orientale occupe la troisième position grâce à la forte activité halieutique et densité des poissons du lac Albert, du fleuve Congo ainsi que de ses affluents. La province est également la première productrice de viande bovine en RDC. En ce qui concerne l'exploitation forestière, la province dispose de nombreuses essences exploitables susceptibles de contribuer considérablement à l'émergence de son économie, à condition qu'il s'agisse bien sûr d'une exploitation responsable et raisonnée, vu la haute valeur écologique de sa forêt primaire. Les ressources minières de la province orientale sont constituées d'or, de diamants, de fer non exploités, des cassitérites, des coltons, des schistes bitumés non exploités, des calcaires, des pétroles non exploités. Les conditions écoclimatiques de la province orientale sont par ailleurs favorables à la culture des oléagineux en vue de la production des biocarburants. Tout ce dont nous venons de parler démontre que cette province regorge des éléments favorables à son développement économique et évidemment celui du pays. D'où la tenue de ces grands forums axés sur la relance économique de la province qui vient de s'y clôturer.
Ce soir, nous parlons également du processus de baisse de prix de produits de première nécessité sur le marché, précisément les vivres frais. Les tenanciers des chambres froides du Congo s'inscrivent dans cette démarche voulue par le gouvernement central pendant cette période de fin d'année. Mais ils s'insurgent contre la multiplicité des taxes, dont la TVA qui, selon eux, ne permet pas de respecter la marge bénéficiaire fixée avec les importateurs. Ils l'ont fait savoir ce vendredi à Kinshasa au ministre provincial de l'économie et finances qui les a à l'hôtel de ville. Le ministre provincial de l'économie et finances, lui, s'en remet à la DGI qui doit revoir la taxe sur la valeur ajoutée pour éviter la surenchère de prix sur le marché. Guy Matondo le dit au micro de François Kadima.
Les tenanciers des chambres froides, à l'époque on les appelait les distributeurs. Première chose, ensemble nous avons trouvé que nous pouvons les classifier comme des détaillants. Et par rapport à cela, ils ont une marge de 20% qui doivent se partager avec les petits commerces. L'application de la TVA. Là nous avons constaté tous qu'il y a un sérieux problème. C'est l'une des causes qui fait qu'aujourd'hui nous avons une surenchère des prix sur les marchés, les détails. Nous avons demandé à ce que la DGI puisse nous accompagner. Nous devons lever une option. Ou soit les détaillants ne prennent plus en charge la TVA, ou soit ils payent la TVA, mais calculée normalement, et que la DGI vienne nous éclairer pour que nous puissions voir par rapport à la structure des prix que nous avons aujourd'hui, arrêtée par les ministres de l'économie, pour les importateurs et les grossistes, quelle sera la structure des prix. C'est là le grand problème. Si on prend la TVA, nous avons arrêté à 48 au niveau des grossistes. Aujourd'hui, si on recalcule tel que les gens peuvent le faire, nous sommes à 66 $. Donc tous les efforts que nous fournissons sont en vain.
Direction le Kassai occidental où depuis près de 2 mois, le trafic routier est coupé entre les territoires de Mweka et de Dekessé. C'est précisément sur la rivière Sankuru au niveau de la localité de Lodi, à 75 km de la cité de Dekessé. D'après le député provincial de Dekessé qui avait conduit sur place une équipe de l'Office des routes, ce service de l'État n'a réussi qu'à sortir de l'eau le bac qui était immergé. Pendant ce temps, des camions sont bloqués de part et d'autre. Le député provincial Jacques Futu Chikala s'exprime au micro d'André Kambala Moujanaï.
Le bac Lodi était toujours immobilisé, le bac qui était immergé. L'équipe de l'Office des routes, qui, grâce au concours du gouvernement, nous avons eu des moyens pour renflouer le bac. On l'a soudé et ce bac ne parvient pas à démarrer parce que nous avons trouvé qu'il y a eu beaucoup d'eau dans tous les orifices, dans les quilasses, un peu partout. Et surtout que les injecteurs sont tombés en panne et la pompe d'alimentation. Les moyens de la province n'ont pas été prévus pour cette réparation. Nous, ce que nous avons appris, il a été dit que le bac était immergé et il fallait venir avec la machine pour la souder. C'est ainsi qu'on est allé. Uniquement, on croyait que c'était pour souder. Le budget était prévu pour la soudure. J'ai arrivé là-bas, ce qu'on a trouvé, c'est autre chose. C'est que nous sommes obligés de recourir au gouvernement de façon à décanter la situation. L'équipe technique de l'Office des routes est appelée à faire un autre devis, présenter au gouverneur, de façon que l'on puisse décanter la situation, trouver effectivement à quel niveau la panne se trouve.
Assainissement du port de Matadi. Le gouvernement de la RDC prévoit une enquête afin d'évaluer les mesures prises en juin dernier pour désengorger ce port. À l'issue d'une rencontre hier avec le ministre de l'Industrie et PME, les mandataires de la SCTP et OCC ainsi que le vice-premier ministre et ministre du Budget, le ministre des Transports et Voies de Communication a affirmé qu'une bonne fourchette de ces mesures a été jusque-là exécutée, mais d'autres ne sont pas encore appliquées. Parmi ces mesures, il y a notamment la réduction des services publics à 4. Au Kassai oriental, les infirmiers et autres professionnels de santé de la zone de santé de Katakokombe étaient dans la rue hier. Ils protestaient contre des multiples retenues sur leurs salaires et primes de risque. Ils menacent d'entamer un mouvement de grève si cette situation n'est pas réglée. Les manifestants affirment qu'au moins 1000 francs congolais sont soustraits sur le solde de tout un chacun depuis plusieurs mois.
Écho d'économie.
Le rapport 2011 sur les mines et les hydrocarbures exigés par l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive au 31 décembre prochain pourra être publié avant cette date butoir. Annonce faite hier par le coordonnateur national de l'ITE-RDC, Mac Doumba Jérémy, qui salue la pression exercée par le gouvernement et la chambre des mines du patronat congolais sur les entreprises minières qui traînaient à fournir les données nécessaires, ajoute que les données disponibles, la crainte de voir la RDC déjà en suspension, être exclue du processus ITE si ce rapport n'est pas publié avant l'échéance, est à dissiper. Mac Doumba Jérémy s'exprime au micro d'Innocent Olinga.
Le 31 octobre dernier, j'avais déclaré qu'il y avait 61 entreprises minières qui n'avaient pas encore remis leur déclaration à l'ITE. Et c'était alarmant. J'ai alerté le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas hésité d'user de tout son pouvoir. Entre le 31 et le 2, date fatidique, il ne nous restait plus que 12 entreprises. Et aujourd'hui, les 12 entreprises ont toutes déclaré à l'ITE. Nous avons 100% des déclarations de toutes les entreprises minières et de toutes les entreprises pétrolières. Donc aujourd'hui, nous pourrons dire le vrai point de situation, le rapprochement du secteur des mines a commencé, le rapport des hydrocarbures est fin prêt, il sera adopté la semaine prochaine et je peux déjà affirmer positivement que dans cette ligne droite, nous courons vers la publication de ce rapport avant le 31.
Ainsi s'achève cette édition. Nicole Ngaka l'a supervisée, François Kadima l'a réalisée, Guy Manzangou l'a mise en onde. Vous l'avez suivi. Merci et bon début de week-end à tous.